vertu. Quand on répand des larmes, l'air est frappé par ce lugubre cri de la beauté. Pleurons aussi les charmes, elle n'est plus la bergère d'Ivry.
Une histoire particulière. Aimé Millot, le crime qui inspira Victor Hugo. Par Delphine Bauer et Nathalie Salle. Épisode 2. Contre la peine de mort.
Nous nous trouvons ici dans la maison Victor Hugo, qui a été transformée donc en musée, qui se visite. Et l'ensemble des tableaux et des visuels qui sont présentés permettent de restituer tout à fait donc la trajectoire de Victor Hugo et puis l'ensemble de ses combats. L'œuvre visuelle de Victor Hugo est assez variée, dans des styles très très différents, mais en privilégiant quand même le noir et blanc dans l'expressivité. Et le Justicia, qui a été réalisé en 1857, montre évidemment une scène relativement terrible, puisqu'il y a deux points de lumière. Le premier se trouve en bas, c'est la lunette de la guillotine, là où la tête des condamnés devait être placée. Et puis évidemment, on voit une tête humaine qui s'élève en direction des cieux, qui est également donc particulièrement éclairée, et ça fait une sorte de diagonale. Mais quand on la regarde, la guillotine est plongée dans la pénombre, et c'est une scène qui est très très saisissante. Et puis on a l'impression de voir en bas les pavés, et ces pavés sont écartés. On aperçoit les lettres Justicia écrites en lettres de sang.
Frédéric Chauveau, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte ce combat est né dans l'esprit de Victor Hugo ? La légende dit que c'est après avoir assisté à l'exécution d'Honoré Ulbach qu'il aurait commencé, dès le lendemain, la rédaction du Dernier jour d'un condamné. Où est la part de vérité historique ? Y a-t-il une part de légende dans ce récit-là ?
En fait, on peut sans doute supposer qu'il y a deux origines qui ont vraiment forgé les convictions de Victor Hugo. Il y a tout d'abord son vécu. Selon un certain nombre de témoignages, d'emblée, très jeune, il a été sensibilisé par son expérience personnelle. Il s'est rendu donc en Espagne, à Burgos, où il a assisté donc à une exécution. Ensuite, à l'âge adulte, dès les années 1820, on va procéder à l'exécution d'un régicide qui s'appelait Louvel. Ça a été donc la grande aventure du premier tiers du 19e siècle. Et là, Victor Hugo est absolument donc indigné, pas simplement non par la mise en scène, c'est le fait qu'on puisse s'octroyer la possibilité d'ôter la vie à quelqu'un, et en même temps la foule qui est présente, qui est massive, lui semble absolument hideuse. Et puis en 1825, une autre affaire a surgi, qui est peut-être là à l'origine directe du récit, le dernier jour d'un condamné, c'est l'affaire Jean Lebrun, c'est un parricide. Et puis la deuxième origine, c'est une origine plus intellectuelle. Alors il faut pas oublier par exemple qu'en 1764, il y a un livre qui est traduit dans toutes les langues, qui fait le tour de l'Europe, qui est dû au marquis César Beccaria, qui s'appelait « Des délits et des peines ». Ce livre-là prend position au moins d'emblée, très rapidement, dans trois directions. C'est « Non à la torture ». Deuxième point, il faut que les peines soient proportionnelles aux délits. Et puis le troisième point, c'est une condamnation sans équivoque vis-à-vis de la peine de mort. Et puis le grand abolitionniste de l'époque s'appelait Charles Lucas. Et Charles Lucas a écrit un livre qui traite à la fois de la pénalité, de la répression et puis de la peine de mort. Et là, il se prononce ouvertement contre cette sanction en disant que dans l'arsenal des peines, c'est absolument donc inutile. Et puis, il ajoute aussi, il essaye de proposer un développement sur l'exemplarité. Puisque c'est l'argument fort qui était avancé par tous les partisans de la peine de mort, il dit non, la sanction, le supplice extrême n'a jamais dissuadé qui que ce soit de passer à l'acte et de commettre un crime. Donc de toutes les façons, la peine de mort est quelque chose qu'il faut bannir et qu'il faut radier de manière impérative du code pénal.
Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi ? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire et qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Oh. Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe.
Le dernier jour d'un condamné, on ne sait pas exactement l'identité du personnage. Alors, il s'en explique d'ailleurs Victor Hugo à plusieurs reprises en disant qu'il a voulu plutôt proposer un message universel et en aucun cas donc s'inspirer d'un fait concret précis.
Dans Le dernier jour d'un condamné, il n'y a pas de mention d'Aimé Millau, mais il n'y a pas non plus de mention d'Honoré Ulbach.
Mathilde Leichley.
Et ça, c'est vraiment tout le projet d'Hugo. Je vais peut-être lire un extrait de la préface de 1832 où justement il explique ce parti pris. « Ce livre est adressé à quiconque juge. Et pour que le plaidoyer soit aussi vaste que la cause, il a dû, et c'est pour cela que Le dernier jour d'un condamné est ainsi fait, élaguer de toutes parts dans son sujet le contingent, l'accident, le particulier, le spécial, le relatif et le modifiable, l'épisode, l'anecdote, l'événement, le nom propre, et se borner, si c'est là se borner, à plaider la cause d'un condamné quelconque, exécuté en jour quelconque, pour un crime quelconque. » Donc il y a vraiment cette idée qu'il veut parler en fait vraiment de la peine de mort et de ce que ça fait à la société et aux individus, mais il ne veut pas parler d'Ulbach. Ulbach, c'est un élément déclencheur parce que c'est le fait d'assister à son exécution qui provoque la mise à l'écriture, mais il ne s'intéresse pas à lui. Et d'ailleurs, le personnage du dernier jour d'un condamné a une femme et une fille, Marie, donc on est très éloigné de la réalité d'Honoré Ulbach.
Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes, aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé.
En tout cas, en 1825, on sait qu'en France, il y a 134 condamnations à mort, dont 60 pour cause d'assassinat. Donc c'est une époque où la peine de mort est encore très appliquée, puisque ça diminue dans les décennies suivantes. En 1851-1860, il n'y en a plus que 50 par an en moyenne, et ça décroît encore par la suite. Donc au moment où Ulbach est condamné, ce n'est pas très étonnant.
On est en 1827, on est encore très proche de la terreur, de la révolution. Donc on a quand même un peu encore cette odeur de sang qui coule dans Paris.
On la promène sans arrêt. Place de la Révolution, les gens se sont plaints de l'odeur du sang. On l'a déplacée vers la Bastille, c'était la même plainte. En plus, les gens disent que ça dévalorise leur propriété. On l'a déplacée 4 fois, c'est toujours le même problème. Alors finalement, ils la remettent d'où elle est partie.
Il ne faut pas oublier non plus que les exécutions se passaient en place publique.
Victoria Vano.
Et que la foule s'y pressait, notamment les femmes et les enfants, et qu'on estimait que c'était un mauvais exemple, en tout cas une mauvaise image à montrer à la population. Et il y a eu des discours justement pour lutter contre ça. Et la première des luttes contre la peine de mort, ça a été, on va dire, d'invisibiliser, on va dire, ces exécutions-là et de les faire dans les enceintes des établissements.
La société française est assez divisée sur la peine de mort, mais si on se replace dans le contexte, c'est pas vraiment un sujet d'actualité. C'est-à-dire que ça intéresse un certain nombre d'hommes politiques. Alors je dis pas de femmes politiques parce qu'il y en avait pas à cette époque-là, en tout cas, qui pouvaient être élus. Ça n'intéresse guère quand même, malgré tout, donc, si je peux dire, les parlementaires. Mais le débat sur la peine de mort a pu quand même, donc, s'imposer de temps en temps. Et là, Victor Hugo, à ce moment-là, donc, est déjà une personnalité que l'on écoute, mais son combat contre la peine de mort sera davantage reçu un peu plus tard, sous la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848. À deux reprises, la question de la peine de mort sera l'objet de débats. Ses collègues, si je puis dire, l'écouteront de manière très attentive. Ça ne les empêchera pas de pas suivre Victor Hugo et de se prononcer pour la peine de mort. Mais malgré tout, donc, il n'y a pas de quolibet, personne se moque de lui. Il est écouté dans un profond silence, et ces arguments donc marquent finalement donc ceux qui sont présents.
Assemblée constituante, le 15 septembre 1848. Je regrette que cette question, la première de toutes peut-être, arrive au milieu de vos délibérations presque à l'improviste et surprenne les orateurs non préparés. Quant à moi, je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde et ancienne. Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile. Nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l'inviolabilité de la vie humaine. Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, elle n'est rien. Eh bien, songez-y, qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira la peine de mort. Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui, mais n'en doutez pas, demain vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront. Vous écrivez en tête du préambule de votre constitution en présence de Dieu. Et vous commenceriez par lui dérober à ce Dieu ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de mort. Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot, un mot décisif, selon moi. Ce mot, le voici. Après la révolution de février, le peuple eut une grande pensée. Le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il voulut brûler l'échafaud. Mais on l'empêcha d'exécuter cette idée sublime. Eh bien, dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant, consacrez l'autre. Renversez l'échafaud. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort.
Mais c'est vraiment l'idée de que peut la justice et est-ce que la peine de mort est une forme de justice valable ? C'est la question en tout cas que pose Victor Hugo, mais qui est posée en effet à différents moments du 19e siècle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'idée de réfléchir plus globalement aux enjeux sociaux qui mène à ce sentiment d'avoir besoin d'appliquer la peine de mort. C'est prévenir le crime, en fait, aussi, tout le discours qui est associé à cette demande d'abolition. Et ça, dans le cas des meurtriers et ou des violeurs, est-ce que, justement, on les exclut du corps social en les tuant parce qu'on les considère comme des anomalies, ou est-ce qu'on essaie de prévenir ces actes parce qu'ils ne sont pas des pathologies, mais qu'ils naissent en plein cœur de la société ? Ce n'est pas comme ça qu'on résout des problèmes sociétaux et des problèmes systémiques, puisqu'on a parlé de la question de la jalousie, de la question du traitement de l'adultère, de la mythification de la victime qui doit être idéale, vierge, martyre. Et ça renvoie aussi au positionnement de Victor Hugo suite à l'exécution d'Ulbach et au fait justement de réfléchir plus largement en tant que société à comment rendre justice.
Je crois qu'on peut dire que Honoré Ulbach a nourri malgré tout Victor Hugo pour plusieurs raisons. La première, c'est sans doute parce que c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée. Donc là, Victor Hugo n'a pas pu l'ignorer. Comme tout un chacun, évidemment, il a suivi les différentes péripéties, que ce soit donc le procès ou l'exécution. On trouve aussi d'autres réminiscences de l'affaire Honoré Ulbach, notamment dans Les Misérables. Dans Les Misérables, il y a un moment donné donc le personnage de Marius qui se promène, qui se retrouve sur les lieux où le crime a été commis. Donc c'est mentionné, ça montre bien malgré tout donc l'empreinte de cette affaire dans les écrits de Victor Hugo.
Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Qu'est-ce que c'est donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour ? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite ? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud ? Apparemment, ce n'est pas la souffrir.
L'exécution n'est pas immédiate, c'est-à-dire qu'au moment du sorti du procès, il existe un certain nombre d'étapes, il y a un rituel de la mise à mort qui est respecté, donc il y a un délai de 6 semaines qui s'écoule. Donc il faut imaginer, évidemment, dans sa cellule, le condamné, il sait qu'il n'y a pas d'issue. Souvent, donc, il fait une demande de grâce, mais il sait au fond de lui-même que, dans l'immense majorité des cas, elle sera refusée, et que pour lui, il n'y a pas d'autre issue. Il faut qu'il fasse un petit peu, pas forcément son examen de conscience, souffrance. Mais la seule possibilité, c'est de vivre avec lui-même, et c'est un temps qui s'étire. Et là, Victor Hugo, évidemment, c'est particulièrement flamboyant. Il le restitue donc à la perfection, et jamais personne n'a égalé jusqu'à présent l'étirement du temps, ces semaines qui s'écoulent les unes après les autres, et comment donc un accusé peut réagir ou pas, ou ce qu'il peut lui-même ressentir au cours de cette période. Mais Victor Hugo a raison de dire que ça ressemble à une longue agonie.
Il veut réhumaniser ce monstre, parce qu'on sait très bien que si c'est un condamné à mort, c'est qu'il a commis le pire. Alors évidemment, pour le réhumaniser, on invisibilise la victime. Elle n'a plus d'existence. Mais c'est pas ça qui importe, puisque le discours, là, pour Hugo, c'est de dénoncer la peine de mort. Donc il va de soi que s'il avait parlé de la victime, la figure humaine qu'il essayait de restituer à ce personnage s'effritait, et il ne pouvait pas finalement trouver de quoi adhérer à son discours, à cette dénonciation de la peine de mort.
Finalement, personne, même pas Victor Hugo lui-même, ne prend conscience en fait que...
Christelle Tarot.
En fait, il y a deux affaires de peine de mort dans l'affaire Aimé Millot. Parce qu'il y a effectivement la condamnation du féminicidaire, et donc on peut à juste titre... Et moi, j'adhère complètement, évidemment, à la défense de Victor Hugo, parce que, bien sûr, je suis contre la peine de mort, puisque je suis contre les féminicides. Mais ce que je trouve assez incroyable, c'est que une peine de mort atomise l'autre. La société française de l'époque a des seuils de tolérance très hauts vis-à-vis, globalement, des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants des deux sexes, mais en particulier aux petites filles. Mais donc, on observe que le fait que Aimé Millot ait été exécuté, qu'il s'agisse d'une peine de mort, n'entre pas du tout dans l'équation. Alors, évidemment, parce que l'une de ces peines de mort est complètement acceptée socialement et l'autre est en train d'être remis en cause à juste titre encore. Ça relève aussi du fait que, de manière générale, la parole des femmes est délégitimée et que, globalement, les femmes sont extrêmement silenciées. Et que, la part de l'histoire qui serait de se poser la question de savoir pourquoi cet homme a tué cette femme, en particulier à ce moment précis, dans ces circonstances-là, a peu de poids. Donc, en fait, Victor Hugo n'a effectivement pas parlé d'Aimé Millot, parce que je pense que pour lui, Aimé Millot n'a guère d'importance dans l'enjeu qu'est effectivement le débat sur la peine de mort et son éventuelle abrogation, qui, je le signale, viendra bien longtemps après, puisqu'il faut attendre un grand homme politique d'Inter pour que finalement on arrive à mettre fin à cette peine de mort qui, de surcroît, nous le savons, ne règle rien du tout.
Des jeunes vierges dont elle eut l'estime de la vertu, reconnaissant les droits sur le lieu même où périt la victime, pour l'honorer, élevèrent une croix.
Le rappel, 22 juin 1891. Elle est déjà si ancienne, cette dramatique histoire de la bergère d'Ivry qui passionna tant nos pères, que bien peu de la génération actuelle la connaissent plus que vaguement. Nous croyons donc être agréable à nos lecteurs d'Ivry qui assisteront à la cavalcade d'aujourd'hui en la relatant ici. De pieuses personnes perpétuèrent le souvenir d'Aimé Millot en élevant un modeste monument à l'endroit même où elle avait été tuée.
Ça devient une station en fait, vraiment comme une station d'un pèlerinage. Et d'ailleurs quand plus tard, après la disparition du monument, les auteurs transmettent cette mémoire du petit monument éphémère, ils disent qu'en fait, ce sont des gens qui leur ont indiqué « Là, c'est l'endroit où Aimé Millot est morte, il y avait ce monument. » Donc, dans la mémoire, c'est quelque chose qui s'imprègne très profondément et inlassablement, ce souvenir d'Aimé Millot par le lieu de sa mort, il travaille les imaginaires.
Il vous dit sur quel bout de rue ?
Verbier du Mai.
Oui, c'est ça, c'est de l'autre côté du parc, en fait. C'est l'autre coin du parc, c'est pour ça que j'ai confondu, pardon.
D'accord.
C'est juste là, en fait.
Ok. Raphaël Rémy-Leleu, vous êtes militante féministe, ancienne porte-parole d'Oser le féminisme, et vous êtes aussi conseillère de Paris pour le groupe écologiste de Paris. Vous pouvez nous raconter à quelle occasion vous êtes déjà venue ici ?
C'est un lieu que je connais, notamment parce qu'on y a pas mal travaillé sur des questions mémorielles, avec les militantes féministes, avec les élus écologistes du 13e arrondissement également, pour redonner un petit peu d'importance et de connaissance à la mémoire de la bergère d'Ivry, qui n'est pas que la bergère d'Ivry, mais qui est bien une victime de féminicide. Et en lien avec cela, on avait déposé en début de mandat une proposition de vœux pour que Paris se dote d'un vrai espace mémoriel pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, pour les victimes de féminicide. Et le lieu qui a été choisi est à côté de la place de la Bergère d'Ivry, parce que justement ça redonne cette cohésion aussi historique et politique à qui sont les victimes de féminicide, de violences sexistes et sexuelles. Donc là nous sommes juste au coin du square René Le Gall, entre la rue Croulebarbe et la rue Corvisart. Alors, 13e arrondissement, place de la Bergère d'Ivry, Aimée Millot, jeune fille assassinée par son compagnon en 1826. Ça devrait dire assassinée par son compagnon en 1827. On va le faire corriger, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant quand on fait des nominations pour des femmes ou même pour des personnes issues des minorités, avec une historiographie qui n'est pas super précise, qui n'est pas très fournie, où régulièrement on se retrouve à recorriger des plaques. Donc là, on va faire une petite correction de date.
Au XIXe siècle, même comme la première moitié du XXe siècle, seuls, finalement, ceux qui présentent de l'intérêt sont les accusés. Et puis après, progressivement, dans l'imaginaire collectif, on a déplacé donc le centre d'intérêt de la figure de l'accusé vers l'enquête. Or, les victimes, il faut attendre les années quasiment 1980 pour qu'elles occupent la première place ou une des premières places dans l'imaginaire collectif.
Alors, rétrospectivement, aujourd'hui, si Aimée Millot était assassinée, la presse titrait effectivement un nouveau féminicide et non pas un crime passionnel. Dans l'affaire Aimée Millot, il y avait une lecture populaire, évidemment à travers les complaintes, les pièces de théâtre, etc., qui regardait un peu l'affaire Millot comme voilà, le spectacle, et puis on avait cette figure du monstre, Honoré Ulbach. On a une lecture un peu bourgeoise, un petit peu plus posée, des rapports humains très sérieux, avec cette figure angélique et puis toujours cette figure du monstre, cette lecture bourgeoise qui finalement a condamné Ulbach. Et puis on a une lecture a posteriori féministe, et on le voit avec finalement la postérité qu'on a donnée à l'affaire Millot, la reconnaissance à travers une place.
Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que le lieu était connu comme l'endroit de l'assassinat de la bergère d'Ivry, et qu'on a réussi à le préserver et à le récupérer du point de vue mémorial. Oui. Ce qui est formidable quand on est féministe, c'est qu'on peut être très créative. Étant donné que le patriarcat est partout, je peux prendre à peu près n'importe quelle dimension de la société, n'importe quelle habitude, n'importe quelle production culturelle, aller y trouver les biais misogynes et me dire, là, on va essayer de mener une action féministe, soit de conscientisation, de pédagogie, d'explication, soit de rééquilibrage. Et dans le cas des noms de rue, des noms de place, des noms dans l'espace public, il y a depuis plusieurs années cette dynamique autour du matrimoine et de la réappropriation de l'espace public. Quand vous passez toute votre vie entouré de noms d'hommes célèbres et célébrés, vous avez un attrait potentiellement sur la vie de ces hommes, leur parcours, leurs exploits. Et pendant ce temps-là, vous avez des femmes qui sont encore mises à l'écart de cette histoire collective qu'on construit et qu'on célèbre. Donc le fait de rééquilibrer les choses en mettant des noms de femmes, c'est à la fois une manière d'avoir une vision plus complète de notre histoire, mais ça sert également pour donner des modèles, des inspirations.
Quel que soit le récit qu'on fait, on doit être attentif à ce que on le raconte de manière paritaire. C'est-à-dire qu'on se place nécessairement sur cette grande ligne de partage de l'humanité entre hommes et femmes, et que lorsqu'on raconte un événement, quel qu'il soit, on doit toujours se demander où sont les hommes et où sont les femmes. Et donc ça a conduit évidemment à revoir totalement l'architecture générale de l'histoire que nous racontons. Je dis ça parce que l'histoire est un domaine très très puissant d'idéologie dans notre société et que ça participe en fait de la réplication d'un modèle de force. C'est-à-dire que lorsqu'à l'école, on va valoriser essentiellement l'histoire bataille, on va valoriser les valeurs viriles, on va mettre en avant, y compris pour les hommes eux-mêmes, une certaine forme de masculinité hégémonique et brutale au détriment d'autres formes de masculinité qui pourtant existent dans la société parce que nous les voyons et nous les expérimentons tous les jours, eh bien, on dit quelque chose, en fait, qui induit une manière d'être individuellement et collectivement. Et moi, je crois qu'il est plus que temps et même urgent de sortir de cette manière d'être. Ce qui, évidemment, nous conduit à sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité. Ouf, ça va faire du bien, hein.
On a traversé une partie du parc René Le Gall et nous sommes ressortis par la place hommage aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.
Et cette place a été inaugurée donc le 25 novembre 2021.
Est-ce qu'au moment de l'inauguration, vous avez eu une petite pensée pour Aimé Millau ?
Aimé Millau a été citée, donc je vous assure que je crois que nous sommes beaucoup à y avoir pensé. Et puis, j'ai aussi eu des pensées pour les copines de Toulouse qui avaient obtenu une stèle en mémoire il y a quelques années. J'ai eu des pensées pour Cathy Thomas qui a perdu sa sœur et ses parents lors du triple féminicide de Grande-Synthe et où nous avions inauguré une stèle aussi en mémoire des victimes à Grande-Synthe. Pour toutes les victimes, en fait, ce sont des initiatives qui se démultiplient et qui doivent... marquer une volonté politique qui ne faillira pas de mieux protéger les femmes et les filles.
C'était Aimé Millau, le crime qui inspira Victor Hugo. Épisode 2, contre la peine de mort. Merci à Christelle Tarot, historienne, spécialiste des féminicides, qui a coordonné l'ouvrage « Féminicide, une histoire mondiale ». Victoria Vano, juriste et historienne du droit, autrice de La paix des ménages, histoire des violences conjugales, 19e-21e siècle. Mathilde Leichley, historienne, spécialiste des violences faites aux femmes au 19e siècle. Frédéric Chauveau, historien, spécialiste de l'histoire pénale au 19e siècle. Et Raphaël Rémy-Leleu, ancienne porte-parole d'Oser le féminisme et conseillère de Paris pour le groupe Écologiste de Paris. Lecture. Laurine Bobby. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Manon Houssin. Archivina, Anne Delavaux. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Villoz. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. The book.